France Culture. France Culture, question du soir. Astrid de Villaine.
Les tensions entre Washington et Caracas atteignent un niveau inédit. Frappe en mer, opération clandestine, prime de 50 millions de dollars promise pour la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. Sous couvert de lutte contre le narcotrafic, Donald Trump assume une politique de confrontation directe. Mais derrière cette guerre anti-narco se rejoue une vieille histoire d'ingérence et de domination sur le continent. Le Trumpisme marque-t-il le retour de la doctrine Monroe ? L'Amérique latine est-elle encore l'arrière-cour des États-Unis ? Et que révèle cette crise du nouvel équilibre mondial ? Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur France Culture ce soir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine et vous êtes également enseignant au sein d'IRIS Sup. Je cite votre dernier livre, Géopolitique de l'Amérique latine, en 2022, c'était l'avant-dernier, et Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde aux éditions Agone, en 2023, coécrit avec Didier Billion. Alors peut-être pour commencer, si on se penche sur tout le continent latino-américain, qu'est-ce qu'a changé le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Est-ce que l'Amérique latine se retrouve au cœur d'une stratégie des États-Unis de Trump 2 ?
Oui, tout à fait. On est en train d'assister à ce que vous décrivez, c'est-à-dire que il y a une politique de Washington désormais qui se précise et qui est plus offensive, on va dire ça comme ça, dans la région que celle qui a précédé avec Joe Biden, qui avait plutôt tenté de pacifier les relations des États-Unis avec la région, parce que Biden lui-même faisait suite à Trump 1, hein, 2016-2020, où déjà Trump avait posé les petits cailloux, en quelque sorte, de sa politique un petit peu répressive, avant toute chose, sur l'Amérique latine. Alors pourquoi répressive et qu'est-ce qui fonde la politique de Trump aujourd'hui en Amérique latine ? C'est essentiellement trois choses qui sont partiellement connectées entre elles. Et ça, c'est très important à avoir bien en tête. Les trois choses pour Trump, c'est un, la lutte contre l'immigration, qu'il a promis à sa base électorale MAGA en particulier, c'est d'en finir avec ce qu'il appelle les 11 millions de clandestins qu'il veut renvoyer de l'autre côté de la frontière sud états-unienne. C'est la lutte contre le narco qui tue les jeunes enfants et la jeunesse américaine. Je le dis tout de suite pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien de quoi on parle. Le marché de consommation des drogues américain est le premier au monde. Hein. C'est aux États-Unis qu'on consomme le plus de drogues au pluriel. Et il y a un retour, on en reparlera, une recrudescence, enfin une montée de nouveau après une période de tassement de la consommation de cocaïne aux États-Unis. Donc c'est la lutte contre les narcos avec une politique qu'on peut résumer d'une phrase, c'est la destruction de l'offre. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. C'est la même chose qu'en économie, d'une certaine manière. On détruit la production, les producteurs, les acteurs de l'offre. On coupe la tête des serpents et puis hop, tout va bien. Donc c'est ce que propose Donald Trump. Puis la troisième, jambe, si j'ose dire, de ce corps trumpien, c'est l'endiguement de la Chine. La Chine qui est devenue, et c'est un fait absolument majeur depuis le début du 21e siècle, enfin surtout depuis les années 2009-2010, le second partenaire commercial financier de l'Amérique latine et le premier de toute l'Amérique du Sud, avec au milieu de cette dernière, le Grand Brésil. Et donc c'est tout ça, en fait, que Trump a à l'ordre du jour, et il pense que c'est lié, parce qu'en luttant contre l'immigration, vous arrêtez une partie du narco qui s'occupe de la traite des migrants, vous arrêtez la pègre qui est dans les villes américaines, parce que, bien sûr, elle est la tournée américaine très souvent, et puis enfin, la Chine, c'est le pays qui envoie les précipités pour faire le fameux fentanyl qui est transformé par les cartels mexicains et renvoyé sur le sol, le territoire états-unien. Donc avec tout ça, vous avez un paquet qui constitue une menace pour la sécurité intérieure qui permet à Trump aujourd'hui de justifier la mobilisation des forces militaires dans la région.
Et on va revenir tout de suite avec vous, Christian Ventura, sur le cas vénézuélien, puisque c'est vraiment ce qui nous occupe dans l'actualité. Ces frappes, vous allez nous expliquer pourquoi et jusqu'où ça peut aller cette escalade, mais peut-être encore un mot sur le continent. Qu'est-ce qu'il devient ce continent ? Est-ce qu'il se divise aussi à l'aune de Donald Trump ? On voit que certains États d'Amérique latine aident également Donald Trump sur l'un des piliers que vous venez de nous détailler, l'immigration.
Oui, tout à fait. L'Amérique latine, et c'est son drame, si je puis dire, dans l'actualité, c'est pas tout à fait que dans l'actualité d'ailleurs, mais actuellement, ça lui pose des gros problèmes, c'est qu'elle avance en ordre dispersé, c'est peu de le dire, vous avez raison. L'Amérique latine est une région qui aujourd'hui est marginalisée en tant que région dans le concert des nations, dans les affaires internationales, on n'entend pas une voix latino-américaine, américaines. On entend des dirigeants latino-américains qui sont tout aussi opposés que l'eau et le feu, l'un ou l'autre selon d'où on regarde, pour être Lula au Brésil et l'autre à Javier Milei juste à côté en Argentine. L'Amérique latine aujourd'hui, les élections qui s'y déroulent, il y en a tout le temps en Amérique latine, donnent plutôt un avantage à la droite qui est de plus en plus dure en Amérique latine. C'est l'Argentine, c'est l'Équateur allié de monsieur Trump avec monsieur Noboa qu'on connaît moins en France. Le Paraguay, c'est la Bolivie qui vient d'élire un président de centre-droit, monsieur Paz, qui s'est tout de suite aligné sur Washington. Et puis, il reste des gouvernements de gauche, pas des moindres, hein, le Brésil, qui est quand même la grande puissance régionale, le Mexique aussi, qui est collé aux États-Unis, si près des États-Unis, si loin de Dieu, comme disait Porfirio Diaz. Et vous avez ensuite des pays comme le Venezuela, on va en reparler, ou Cuba, qui sont des pays, de la gauche des années 80, enfin, pour le Venezuela des années 2000, Cuba encore bien avant, années 60, qui sont aujourd'hui isolés, en fait, dans la région, et qui n'ont pas forcément, d'ailleurs, de bonnes relations avec les autres pays progressistes, comme le Brésil dont j'ai parlé, ou la Colombie de Gustavo Petro, ou le Chili de monsieur Boric. Donc, en fait, elle est assez éclatée, très polarisée, l'Amérique latine, et elle se positionne sur Trump de manière différenciée. Il y a une allégeance même, on peut dire, de l'Argentine de Milei, de l'Équateur, du Paraguay, et puis il y a une tentative de trouver des marges de manœuvre pour résister à Trump de la part des autres, mais ils sont pas non plus en bonne position pour le faire. Donc l'Amérique latine est affaiblie aujourd'hui.
Peut-être un mot sur le Mexique, puisque vous le mentionnez. On a appris aujourd'hui par l'AFP que la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a écarté une intervention armée des États-Unis. J'aimerais bien avoir votre regard sur cette dépêche. Et puis, également, qu'elle avait autorisé le survol de son territoire par des drones de la CIA. On pensait qu'elle avait plutôt conservé une relation correcte, hein, par rapport à ses partenaires latino-américains. Comment vous, en quelques mots, avant qu'on aille sur le Venezuela, vous décririez cette relation et peut-être ses menaces, si l'on en croit cette dépêche AFP que je viens de vous citer?
Alors, Donald Trump n'a eu de cesse depuis sa campagne électorale, pas son élection, sa campagne. Il est transparent. Il a dit qu'il allait faire ça. C'est-à-dire que depuis le départ, il a dit que l'idée, c'était de permettre aux forces américaines, que ce soit l'armée ou la DEA, la Drug Enforcement Administration, l'équivalent des douanes avec plus de pouvoir américaine, etc., d'intervenir, de faire des opérations ciblées pour lutter contre les cartels sur des territoires extérieurs. C'est ça le point, là, ce que veut faire Trump.
C'est ça au Venezuela aussi.
C'est ce qui dit qu'il va faire, peut-être, on va en reparler au Venezuela.
Pour l'instant, en mer.
Mais il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou 10 jours, je ne me rappelle plus, il a évoqué le cas mexicain dont vous parlez. Il a dit oui, mais moi je sais que la plupart de la cocaïne, elle est produite en Colombie. Je sais qu'elle part de Colombie par le Venezuela, mais elle va aussi par le Mexique, via la voie terrestre, vers chez nous. Et aujourd'hui, je vous annonce que non seulement on a la maîtrise des mers, mais on va prendre la maîtrise terrestre. Et ça a été très bien compris à Mexico, parce que ça veut dire que potentiellement, les Américains peuvent reprendre et intensifier des interventions sur le territoire, etc. Donc, Madame Sheinbaum est dans une situation qui est très compliquée, parce que il faut pas qu'elle rompe avec Trump complètement. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de dépendance mexicaine à l'économie américaine. Et en même temps, ce qu'elle a dit, coopération avec Trump, oui, soumission, non. Et c'est dans cet entre-deux qu'elle avance comme elle peut en fonction des dossiers un par un, et celui-là est un nouveau.
Je ne veux pas vous en dire plus, mais nous regardons du côté du sol à présent, car nous contrôlons très bien la mer. Nous avons eu quelques jours où il n'y avait pas de bateau en vue.
Le peuple des États-Unis est conscient que ce qui est envisagé contre le Venezuela est une agression armée visant à imposer un changement de régime, à installer des gouvernements fantoches et à voler le pétrole, le gaz, l'or et toutes les ressources naturelles d'une patrie.
On vient d'entendre, traduit par nos confrères de France 24, le 16 octobre dernier, le président des États-Unis, Donald Trump, qui envisage des frappes au sol au Venezuela, et la réponse de Nicolas Maduro, qui accuse les États-Unis de fomenter un coup d'État. Et là, il va falloir qu'on aille aussi sur le passé du Venezuela, hein, puisque ce serait pas la première fois, si l'on se souvient, de Hugo Chavez. Peut-être sur l'actualité. Donc, le 29 octobre dernier, Washington revendique une nouvelle frappe d'un navire. 4 narcoterroristes tués. En 2 mois, 14 frappes, plus de 60 morts sont revendiqués. Ce fameux porte-avions qui est déployé au large des côtes. Comment Donald Trump justifie-t-il ces différentes actions, et surtout, sont-elles légales, Christophe Ventura ?
Alors, dans l'ordre, il les justifie par le fait que la lutte contre le narcotrafic est légitime parce que le narcotrafic est une menace contre la sécurité intérieure américaine, parce que le narco tue beaucoup d'Américains et que tout ça, c'est de la faute donc des cartels, des latinos, etc. Il considère dans cette fabrication d'un ennemi, il considère que Nicolas Maduro est un chef d'un des plus grands cartels, selon lui, du Venezuela, dont tout le monde s'interroge, et quand je dis tout le monde, c'est l'ONU, mais aussi Inside Crime et plein d'ONG sur la réelle existence. Et en tout cas, le fait que Maduro serait le chef en haut d'une organisation centralisée, tout ça, c'est ce que dit Monsieur Trump, mais il n'y a aucune preuve avérée du tout.
Il dit l'un des plus grands narcotrafiquants.
Oui,
au monde.
Mais vous savez, ça fait partie... D'ailleurs, comme dit Trump, it's good for television en français, c'est de la bonne télévision, ça permet de fabriquer un ennemi, et malheureusement, on sait que les États-Unis sont pas les derniers dans l'histoire à être capables de faire ces choses-là qu'on appelle aujourd'hui des fakes.
Donc vous voulez nous dire, si je vous suis bien, qu'en fait, ce sont un petit peu des choses qu'on agite pour justifier d'autres objectifs qui seraient moins avouables ?
Disons qu'à partir du moment où vous dites que l'opération, elle vise à détruire les cartels qui sont désignés dans le décret présidentiel de Trump qu'il a pris le 4 septembre, comme des organisations terroristes étrangères. Et donc vous dites Maduro, c'est le chef d'une organisation terroriste étrangère. Une organisation terroriste, ça se détruit jusqu'à l'élimination totale. C'est le terme du décret américain. Élimination totale, c'est une interprétation qui vous permet de penser que si vous le souhaitez, vous pouvez physiquement éliminer un chef d'État qui est le chef d'un cartel dont vous avez dit qu'il existait. Donc, qu'est-ce que fait Trump ? Il fait cela et il met en place tout un dispositif qui est à la fois juridique, à la fois politique, à la fois médiatique, à la fois storytelling. On ne sait pas aujourd'hui s'il va intervenir réellement au Venezuela, mais en fait, il fait tout pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie au moment où il aura envie de le faire, sans qu'il y ait de limite sur la forme d'intervention.
Quel est le but ?
Le but pour Trump, il l'a encore dit hier soir, pas plus tard qu'hier soir, puisqu'il a fait un long entretien sur la chaîne CBS aux États-Unis, à la question de savoir est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour mettre fin, disons, au pouvoir de Maduro au Venezuela. Il a répondu oui, je pense que c'est ses derniers moments au pouvoir. À la question est-ce que vous allez faire une intervention militaire pour cela, il a dit j'en doute, j'incline plutôt pour le non, mais je ne vous le dirai pas. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire sur ce que pense Trump de la question, mais il est clair que l'objectif peut lui permettre, s'il le souhaite réellement, de pouvoir, sous une forme ou sous une autre, je ne crois pas une invasion ou une occupation du Venezuela comme l'Irak de 2003 par exemple, mais plutôt une opération coup de poing, si j'ose dire, des frappes ciblées, des opérations comme ça qui peuvent s'appuyer sur des agents sur le territoire vénézuélien, ça c'est possible. D'ailleurs, Trump l'a déjà fait d'une certaine manière, pas pour le territoire terrestre, mais pour l'air. C'est ce qu'il a fait en Iran, pas plus tard que l'été dernier, avec les frappes sur les sites nucléaires iraniens. Ce sont, moi, ce que j'appelle des équipés sauvages. Si ça doit lui permettre d'avoir le scalp de Maduro, si je puis dire, je pense que Trump, c'est quelque chose qu'il a peut-être envie de faire. Mais aujourd'hui, il n'a pas tranché cette question.
En tout cas, pour l'instant, il ne semble pas s'y prendre très bien pour les services secrets américains et l'armée qu'on connaît. Si l'on en croit ce récit de libération paru le 28 octobre que vous avez sans doute vu, à propos de cette tentative américaine, c'est le récit aussi vénézuélien, mais de corrompre le pilote personnel de Nicolas Maduro en lui promettant 50 millions de dollars pour détourner l'avion présidentiel. Ce pilote vénézuélien aurait donc refusé et a dénoncé, vous parliez de télévision tout à l'heure, à la télévision en devenant un héros au Venezuela. Ça paraît quand même un peu léger comme façon de faire, non ?
Écoutez, je crois que Donald Trump, il sidère un peu tout le monde tous les jours. À la fois son imprévisibilité, ce qui même pareil dans le sens de ce que vous dites, quelque chose de cocasse. Et un petit peu avant, il avait expliqué dans une conférence de presse qu'il autorisait la CIA à faire des opérations clandestines. C'est assez cocasse. On a rarement vu.
On ne dit pas ça.
Déjà, je pense qu'il y a quand même un côté chez Trump qui est vraiment, je le dis encore, c'est fait pour good television. C'est pour, il le dit lui-même, hein, c'est pour faire de la bonne télé. Je pense que il monte très très haut dans les tours et dans les démonstrations sonores et communicationnelles pour après se réorganiser et obtenir ce qu'il veut. Bon, je crois qu'aujourd'hui il n'a pas tranché ce qu'il veut au Venezuela, mais il est clair que pour l'instant, et de toute façon ça nous renvoie à l'histoire un peu plus longue, depuis le début du chavisme en 1998 avec Hugo Chavez, les États-Unis ont fait beaucoup de choses au Venezuela pour tenter de déstabiliser ce pouvoir chaviste, etc. Ils n'y sont jamais arrivés. Le coup d'État, Chavez est revenu. Quand on leur a dit qu'on allait mettre un président bis, ça a fini en échec total. On leur a dit que l'armée vénézuélienne allait lâcher Maduro, ça n'est jamais arrivé à part quelques défections marginales. Donc aujourd'hui, ce que vous rapportez, c'est un peu la confirmation de ça, oui.
Il y a également la question de la Chine qui est sous-jacente dans ce dossier-là, dont vous nous parliez en introduction, parmi les trois piliers, narcotrafic, immigration et rapport avec la Chine qui peuvent intéresser Donald Trump dans sa vision ou ses relations avec l'Amérique latine. Et peut-être, est-ce que il faut peut-être dire un mot aussi du pétrole et peut-être si on inscrit cette question-là dans le temps long, est-ce que c'est une récurrence américaine là-dessus ?
Alors, il est clair que la question pétrolière est indissociable du sujet vénézuélien du point de vue de Washington.
Il n'y aurait pas de pétrole, peut-être qu'ils s'y intéresseraient moins.
C'est certain, d'autant qu'ils considèrent que c'est à eux, en tout cas Trump, largement. Pourquoi ? Parce que c'est l'industrie vénézuélienne du pétrole, ça remonte aux années 20 du XXe siècle, a été mise en place par les États-Unis et tout le pétrole vénézuélien, et je rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas que c'est les premières réserves mondiales prouvées de pétrole qui sont au Venezuela, eh bien étaient allées directement, pour leur grande partie, directement aux États-Unis pour y être raffinées et distribuées. Donc quand la révolution bolivarienne d'Hugo Chavez est arrivée et qu'ils ont pris le tuyau, pas pour le décrocher complètement des États-Unis d'ailleurs, puisqu'ils vendaient encore du pétrole aux États-Unis il y a encore quelques semaines à peine au Venezuela, mais pour diversifier la clientèle pétrolière du Venezuela, en particulier la Chine et la Russie, bah c'est ça qui a commencé à pas plaire aux Américains, et donc et tout un tas d'autres choses qu'on n'a pas le temps de développer, mais en tout cas
on a un peu de temps encore.
Bon, bah, en tout cas, le chavisme se réclamait du socialisme dans ses belles années avec Chavez. C'est un pays qui a commencé à développer une diplomatie contestataire contre, disons, ce que eux appelaient l'impérialisme américain. Ils ont permis tout un tas de choses et à construire des alliances régionales qui ont permis de mettre les États-Unis en dehors de la région pendant à peu près une dizaine d'années. C'est pendant ce temps-là que la Chine est arrivée, qu'elle s'est ancrée, elle, en Amérique latine, alors qu'elle était epsilon, la Chine, au début des années 2000, il y a 25 ans en arrière. Aujourd'hui, je vous dis, c'est le premier partenaire financier, économique, mais aussi technologique. Toute la technologie latino-américaine, les téléphones portables, les ordinateurs, que sais-je, les satellites, tout ce que vous voulez, c'est largement chinois. L'Internet est largement disons, mis en place, les infrastructures en Amérique latine sont faites par les Chinois, etc., etc. L'Amérique latine est un des principaux fournisseurs de la Chine de tout ce dont elle a besoin en matière de ressources naturelles, de matières premières, de soja, de produits agricoles, qui est nécessaire à son développement. Donc la relation, elle est très forte. Et ça, les Américains se sont réveillés un beau matin en se rendant compte qu'ils avaient perdu l'Amérique du Sud, qui était leur arrière-cours, et qu'il leur restait un peu le Mexique, la Caraïbe et l'Amérique centrale. Et donc, aujourd'hui, la phase dans laquelle on est, c'est que Trump, en tapant au Venezuela, bah c'est aussi une manière de mettre une pression sur les Chinois, parce que le Venezuela est proche de la Chine d'ailleurs. La presse américaine dit que Nicolas Maduro a envoyé des courriers à Xi Jinping, mais aussi à Vladimir Poutine, pour qu'il les aide avec du matériel de défense, des radars, etc., dans l'optique où l'armada américaine attaquerait. Bon, c'est ce que rapporte la presse américaine. Donc les relations sont fortes entre le Venezuela, la Chine et la Russie, et ça, bien sûr, pour des raisons évidentes de géopolitique de base. C'est quelque chose qui ne plaît pas aux Américains. C'est un caillou dans la chaussure. C'est un État récalcitrant, même si aujourd'hui il est beaucoup plus faible qu'à l'époque de Chavez et que son rayonnement n'est plus du tout le même. Bah, pour les États-Unis, ce n'est pas acceptable parce que les États-Unis, et c'est la vision de Trump, il veut se retirer de l'Europe, il veut se retirer du Proche-Orient sur le plan géopolitique pour se reconstituer une capacité de puissance aux États-Unis, le cas échéant pour vraiment se mettre dans l'affrontement chinois. Cette logique-là internationale, c'est la logique qui conduit au retour de l'arrière-cour de la doctrine Monroe parce que c'est la autour de la logique de zone d'influence. Trump considère que les Russes ont le droit à la leur, que les Chinois peuvent en avoir une, mais que les Américains aussi. Ça s'appelle l'Amérique latine.
On va écouter un extrait de cette doctrine Monroe et puis vous allez nous dire juste après pourquoi ce serait son retour et surtout comment faut-il la comprendre puisqu'elle date du 19e siècle.
Nous n'avons jamais pris part aux guerres des puissances européennes lorsqu'elles ne concernaient que leurs propres affaires, conformément à nos principes politiques. C'est seulement quand nos droits sont violés que nous nous préparons à nous défendre. Nous sommes plus étroitement concernés par les événements de l'hémisphère où nous nous trouvons. Les continents américains, en raison de la situation libre et indépendante qu'ils ont choisie, ne peuvent désormais plus être considérés comme des sujets qu'une puissance européenne pourrait à l'avenir coloniser. Nous devons, aux relations sincères et amicales que les États-Unis entretiennent avec ces puissances, de déclarer que nous considérerions toute tentative pour étendre leur système à une partie de notre hémisphère comme dangereuse envers notre paix et notre sécurité. Nous ne saurions voir toute interposition d'une puissance européenne visant à les opprimer ou à les contrôler autrement que comme la manifestation d'une disposition inamicale envers les États-Unis.
Un extrait de la déclaration Monroe rédigée par le 5e président des États-Unis, James Monroe, lu au Congrès le 2 décembre 1823, ici lu dans le cours de l'histoire du 17 octobre 2024 sur France Culture. Alors, un mot sur cette doctrine Monroe, parce que parfois on a l'impression de l'employer un peu à tort et à travers, on oublie un petit peu d'où elle vient, à l'époque c'était peut-être aussi à propos de l'Europe. Comment on peut lire tout ce qu'on vient de se dire, Christophe Ventura, sur l'Amérique latine, à l'aune de cette déclaration qui date de 1823?
Alors, elle est connue et méconnue, mais elle est fondamentale. Elle est connue et méconnue parce qu'elle est fondamentale. Parce que c'est la première fois, au début du 19e siècle, que les États-Unis font un acte de puissance. C'est-à-dire qu'ils inventent avec cette doctrine un petit peu le cahier de brouillon, si je puis dire, de ce que va être leur politique étrangère à partir de là jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'ils fondent avec la doctrine Monroe, encore une fois, le concept de zone d'influence. Ça, c'est la première chose qui serait, disons, indissociable de la caractéristique d'être une puissance au niveau international. Ça, c'est la première chose. C'est la capacité à avoir une sphère d'influence. C'est une capacité à tenir loin de ses marges les puissances éventuellement rivales. Donc, Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. C'est ça qu'il avait dit, Monroe. Mais du point de vue de Washington, les Américains appellent ce que nous, on appelle le continent américain. Ils l'appellent l'hémisphère occidental à Washington. C'est ce que ça veut dire, le Canada, les États-Unis, l'Alaska, accessoirement, et donc l'Amérique latine. Donc, pour eux, c'est l'hémisphère occidental. Et donc, c'est ça qui est aux Américains. Aux Américains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les États-Unis considèrent que des intérêts, disons, peuvent être mis en jeu ou menacés par des puissances qui ne font pas partie de cet hémisphère, il reviendrait aux États-Unis la responsabilité morale, à l'époque, d'intervenir pour protéger, en fait, les intérêts américains. Donc, évidemment, à l'époque, ça s'adresse aux puissances européennes, il n'y a aucun doute. Un peu plus tard, en 1904, il va y avoir le corollaire Roosevelt à cette doctrine. Là, c'est l'invention du droit de police international. L'expression qu'on connaît, gendarme du monde, elle vient de là. Les États-Unis se disent que, bon, c'est dur, etc., mais ils ont une responsabilité plus que les autres. Si jamais il y a vraiment des gens qui font n'importe quoi, il leur revient moralement et politiquement la nécessité, le devoir, pas le droit, le devoir d'intervenir pour remettre de l'ordre et faire que la civilisation l'emporte sur la barbarie partout. Voilà ce qu'est en gros le corollaire Roosevelt, dont l'interprétation, ça va être en fait la naissance du droit d'ingérence et d'intervention. L'interventionnisme est né là, et il est né là, mais il est né où? En Amérique latine. Donc l'Amérique latine, c'est la première région du monde qui a connu ce que nous discutons ce soir et ce que nous avons vu après au XXe siècle, se développer un petit peu partout sur la planète. Mais les Latino-Américains ont été les premiers, en quelque sorte, à goûter, je mets le mot entre guillemets, cette conception et cette politique étrangère américaine. Et donc, quand on parle d'arrière-cour, etc., on fait référence à tout ça. Et Trump lui-même, on peut le faire, puisque Trump s'en réclame. Trump, lui, est à l'aise.
Biden, il la cite.
Oui, bien sûr. Biden avait dit, non, c'est plus compliqué, on est sorti de la période de la doctrine Monroe. Mais Trump dit non, on est en plein dedans et on la revendique, etc. Donc on a raison de la mobiliser.
Pour bien comprendre, on dirait qu'il y a une contradiction. En réalité, c'est plus une évolution sur le temps long, cette doctrine Monroe, Christophe Ventura. Parfois, on dit on est passé d'anti-impérialiste à instrument d'ingérence.
Alors moi, je dirais que c'est un corps de doctrine qui constitue réellement les axes d'une politique étrangère, qui est la politique étrangère américaine, et la manière dont elle vit, elle évolue, c'est en fonction de sa recontextualisation permanente, qui est liée en fait à l'évolution des rapports de force aussi. Comme je vous disais, on va pas refaire toute l'histoire des Amériques, mais par exemple dans la période 21e siècle, ça s'est marqué par un rapport de force qui a été défavorable aux États-Unis. C'est-à-dire que entre 2000 et 2020, quasiment 22-23, les Américains ont été refoulés, en tout cas de l'Amérique du Sud. C'est un peu moins vrai pour le Mexique, la Caraïbe et l'Amérique centrale, qui vraiment est le premier cercle, si vous voulez, de la politique étrangère américaine. Mais l'Amérique du Sud, c'est relativement, je dis bien relativement, autonomisé de la tutelle nord-américaine. Ça, c'est ce qui est caractéristique du 21e siècle. Et donc, c'est là-dessus qu'aujourd'hui, à travers le truchement de la lutte anti-narco et de la lutte, anti-narco surtout, ça lui permet, avec ce véhicule-là, de justifier une forme de retour un petit peu sécuritaro-militaire dans toute la région, y compris en Amérique du Sud, où il réutilise et réactive les bases, les présences militaires américaines pour essayer de contrer la puissance chinoise qui est, elle, d'abord économique, commerciale et technologique. Et c'est un petit peu le bras de fer dont l'Amérique est victime actuellement.
Un dernier mot, si vous le voulez bien. On n'a pas parlé de Maria Corina Machado dans le cas vénézuélien, l'opposante de Nicolas Maduro. Quel rapport Donald Trump entretient-il avec elle? Est-ce qu'il souhaite qu'elle récupère la place?
Alors, Maria Corina Machado est tout sauf une inconnue à Washington. C'est surtout une amie du secrétaire d'État de M. Trump, M. Marco Rubio, qui lui fait partie de l'aile néoconservatrice qui a rallié Trump après l'avoir combattu, mais qu'il a rallié pour être au pouvoir. Trump leur a donné le département d'État, c'est pas rien. Et Marco Rubio, lui, il a une feuille de route très claire en Amérique latine. C'est ce qu'il appelle l'anticommunisme. C'est lui faire tomber Cuba, Venezuela, etc. Donc je pense, on l'a pas assez dit ce soir, mais c'est lui qui est un peu l'architecte.
Oui, son rôle, mais il est très présent.
Trump semble lui laisser les mains libres sur la question. Alors bon, Maria Corina Machado est très proche de M. Rubio, comme en Europe, elle est proche un petit peu de cette, aussi d'ailleurs de Mme Le Pen ou de M. Netanyahou en Israël, etc., pour la situer. Et donc, Mme Machado, c'est quelqu'un qui a toujours tenu une ligne intransigeante d'opposition au chavisme depuis 2002, où elle avait participé au coup d'État contre Chavez, et elle a beaucoup conseillé les Américains sur l'idée de les pousser à la radicalisation contre Maduro, avec l'idée justement, et c'est ce qu'elle a appelé, de faire de l'ingérence humanitaire.
Merci.
Pour qu'ils arrivent à faire tomber Maduro. Aujourd'hui, c'est encore ce qu'elle plaide, et c'est ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir jusqu'à présent.
Merci,
mais
Christophe
Trump
Ventura
lui fait confiance, sans toutefois lui donner tous les moyens qu'elle aimerait.
Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur cette question. L'Amérique latine est-elle encore l'arrière-cour des États-Unis ? Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Amérique latine. Et je cite votre dernière note, Donald Trump et l'Amérique latine, une diplomatie du rapport de force, qui est disponible sur le site de l'IRIS. Un grand merci à l'équipe de questions du soir qui m'a aidé à préparer cette émission, et à Léa Racine à la réalisation.